Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Le petit déjeuner présidentiel d'Emmanuel Macron.
Matinale exceptionnelle sur RTL en compagnie de nos confrères du journal Sud-Ouest. Et maintenant, c'est Elisabeth Martichoux que j'accueille comme chaque matin. Elisabeth Martichoux, et vous interrogez Emmanuel Macron.
Bonjour Emmanuel Macron.
Bonjour.
L'art de la conquête n'apprend rien de l'art de gouverner. Ça n'est pas une des citations que vous aimez. C'est ce dont les Français, ce que les Français ont réalisé ces dernières années. Conquérir le pouvoir, ça ne veut pas dire qu'on est capable de gouverner. Or, il y a un doute qui vous concerne, qui revient en permanence dans l'expression des Français à votre sujet. Comment confier le pays un homme de 39 ans qui n'a aucune expérience politique, ou presque. Alors je vais vous poser d'abord des questions sur la façon dont vous envisagez de le faire. Je vous demande d'être assez direct. Si vous êtes élu, vous avez dit j'aurai un vrai Premier ministre, sous-entendu pas un collaborateur. Quel est son profil? Quel serait son profil?
Justement, être président, ça n'est pas gouverner. Donc je vous rassure par rapport à l'inquiétude dont vous faites l'écho.
Dans l'inquiétude, c'est...
Mais je ne cherche pas à gouverner. Présider, ça n'est pas gouverner. Présider, c'est, au titre de notre Constitution, être le garant des institutions et de leur bon fonctionnement, de la dignité de la vie publique, et en même temps donner un cap au pays. Et derrière, nommer. Et s'engager sur quelques chantiers prioritaires.
Alors, pour rassurer les Français.
Le mode de présidence que je cherche à développer, celui sur lequel hier j'ai expliqué mon projet, il se concentre sur des priorités, un domaine réservé, et en effet ensuite un gouvernement à la tâche avec des vraies responsabilités politiques. Le Premier ministre, pour moi, c'est quelqu'un qui doit avoir, homme ou femme, qui doit avoir...
Plus jeune ou plus vieux
que vous. Non, mais l'important, c'est quelqu'un qui doit être en capacité de tenir une majorité parlementaire de projet qui sera... un vrai défi des prochaines années et qui sera un défi posé à tous les candidats à cette élection présidentielle.
Ça veut dire qu'il faudra qu'il ait, et c'est important parce que c'est une question cruciale, une forte expérience, lui, l'art parlementaire.
Ça veut dire qu'il faudra qu'il ou elle ait une forte expérience de la vie politique, de l'art parlementaire et de la capacité à gouverner les hommes. Pourquoi ? Parce que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est inédite. Aucun candidat ou candidate n'est en situation de pouvoir dire aux Françaises et aux Français « J'aurai mon parti, ce sera le parti unique largement majoritaire ». C'est faux, c'est un mensonge. Et on peut vouloir reproduire des histoires passées, ça n'est plus vrai. Parce qu'il y a une telle fragmentation de la vie politique et une telle crise qu'on est en train d'observer. Et vous le voyez bien, je l'avais moi-même dit dès le début des primaires auxquelles je n'ai pas voulu me soumettre, de gauche comme de droite, vous avez une fracturation de la vie politique. Et donc aucun parti de gouvernement classique n'est en situation de dire demain
j'aurai une majorité absolue.
Voilà, et donc ce qu'il faut construire, c'est à la fois, et c'est le projet dans lequel depuis plusieurs mois je suis à la tâche, c'est à la fois un renouvellement de notre vie politique et démocratique, et je me suis engagé à construire une majorité parlementaire où la moitié des candidats que je présenterai seront au moins des nouveaux candidats justement au Parlement, mais en même temps un vrai pluralisme, c'est-à-dire une majorité de projets.
Alors, c'est important, je m'y arrête, parce que encore une fois, c'est fondamental, ça aussi c'est un questionnement. Est-ce que vous êtes prêt à constituer au Parlement une grande coalition à la demande, qui irait de la gauche progressiste à la droite réformiste
Vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est exactement le projet d'En Marche. Depuis le premier jour, comment j'ai présenté En Marche?
Alors, quelles sont les conditions pour que ça soit possible?
Alors, on ne peut pas constituer un système à l'allemande à la manière où les Allemands le font, parce que c'est un régime parlementaire qui construit, après les résultats des parlementaires, des alliances dans des accords de coalition longuement négociés. Ça n'est pas possible en France parce que le système est consolidé par l'élection présidentielle. C'est pour ça que ma volonté depuis avril dernier, c'est de construire une nouvelle majorité de projets dans l'élection présidentielle. La démarche qui est la mienne, le refus qui a été le mien d'aller aux primaires, c'est la dénonciation de l'incohérence profonde sur le plan idéologique des deux grandes parties de gouvernement que sont le Parti Socialiste et les Républicains, sur la base d'ailleurs desquelles se nourrit le Front National. Et ça a été de dire, moi je veux rassembler les progressistes.
Oui, on vous a entendu là-dessus, Emmanuel Macron.
Si vous m'entendiez jusqu'au bout, vous auriez la réponse à votre question.
Je voudrais que les auditeurs aient aussi les réponses aux questions. Les conditions qui rendraient possible cette constitution d'une coalition?
C'est de gagner.
Par exemple, un élan présidentiel fort.
Vous savez,
il faut
une forte
autorité pour imposer cela.
La condition, c'est de gagner.
Mais gagner
si je n'avais pas une forte autorité, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, vous savez. Parce que quand vous partez à quelques-uns le 6 avril à Amiens, et que vous vous retrouvez là où je suis aujourd'hui, c'est que manifestement, vous avez une capacité de conviction et d'entraînement. Ou alors, on se serait déjà effondré, parce que la bienveillance que j'ai érigée pour ma part en principe n'est pas partagée, en tout cas peu contagieuse dans le monde politico-médiatique, je vous rassure. Donc, il faut une certaine capacité de conviction et d'entraînement. Donc, qu'est-ce qu'on fait depuis le début ? C'est qu'on est en train de construire à ciel ouvert ce rassemblement inédit, mais qui a du sens dans la vie politique, qui consiste à rassembler les sociaux-démocrates français, c'est-à-dire l'aile réformiste modernisatrice du Parti socialiste, les radicaux de gauche, les écologistes raisonnables, le centre droit et les républicains pro-européens et raisonnables, c'est-à-dire la droite qu'on appelait orléaniste dans nos livres de sciences politiques.
Donc voilà, c'est votre majorité qui
cette
va
famille,
effectivement...
Ces familles politiques, avec leur identité, accompagnées par le renouvellement profond que nous sommes en train de construire, c'est-à-dire... la venue à la vie politique de la société civile, c'est cela en marche, et c'est pour moi la préfiguration de, à la fois, ce que je veux que mon gouvernement puisse refléter dans un gouvernement resserré, confié donc à une femme ou un homme qui tiendra ce cap, et en même temps, une majorité parlementaire nouvelle.
Une quinzaine de ministres, vous avez dit, certains pourraient être issus de la société civile. Ça, c'est quelque chose...
Bien sûr.
Vous présenterez votre bilan, je continue sur l'art de présider, hein, si vous préférez, devant un jury de citoyens tiré au sort. Ça sera une fois par an. On voit bien l'idée, démocratie participative jusqu'au sommet de l'État. C'est pas un peu démagogique ? Est-ce que vous aurez du temps à consacrer et d'ailleurs, si le bilan que les citoyens tirés au sort dressent est mauvais, qu'est-ce que vous ferez ? Vous partirez ?
Deux choses. D'abord, une remarque, si vous m'y autorisez. Pendant des mois, on m'a dit, vous n'avez pas de projet, pas de programme, c'est terrible. Je présente un programme, vous êtes déjà à l'étape d'après.
Attendez, on est ensemble depuis 7 heures du matin et on a déjà beaucoup parlé du programme.
Oui, mais enfin,
Les Français s'interrogent sur votre
Non, mais d'accord, mais je dis juste, il y a une espèce de bovarisme journalistique qui est ne jamais parler du moment, mais toujours de parler de l'étape d'après. Bon, donc après-demain, je ne sais pas de quoi on parlera, on pourra évoquer les décrets qu'on prendra les premiers jours. J'y suis prêt, rassurez-vous.
C'est une drôle de conception, franchement, Emmanuel Macron, pour quelqu'un qui, par ailleurs, dénonce en permanence les personnalités politiques qui critiquent les journalistes, de le faire comme vous le faites d'ailleurs, le bovarisme, etc. Vous l'avez déjà fait en conférence de presse hier.
Mais vous savez, on peut décider.
Vous vous énervez contre la presse en ce moment, non ?
Mais je vous énerve pas, je réponds. Mais je vous réponds, c'est très différent. Il y a une chose, il faut avoir l'esprit de distinction, c'est ce que je disais tout à l'heure à votre confrère. On peut refuser dans ces meetings qu'on siffle les médias, ce qui est mon cas. On peut dire les médias sont un contre-pouvoir essentiel de la vie démocratique, ce que je crois profondément. Et pour autant, quand on considère que on n'est pas dans une discussion qui est celle qui peut être attendue et qu'on ne va pas au fond, les remettre en place. Si quand on est un responsable politique ou un candidat, on n'a plus le droit de dire aux journalistes que parfois ils font fausse route ou qu'on n'est pas d'accord avec eux, dans ces cas-là, c'est l'inverse. C'est les médias qui deviennent un vrai pouvoir. Donc vous m'autoriserez à dire, je respecterai toujours les journalistes comme un contre-pouvoir utile, mais je continuerai à ferrailler pour défendre mes idées.
Alors,
c'est
la démagogie.
Et donc ce n'est pas drôle du tout, si vous voulez.
Elisabeth a posé ses questions.
La démagogie.
Et donc, sur ce point-là, vous m'aviez écouté, en septembre dernier, nous étions ensemble à Strasbourg. Donc vous êtes resté à Strasbourg, où j'ai expliqué les propositions de nos concitoyens et cette idée-là. Simplement, j'ai depuis sorti un projet tant attendu, où j'explique ce que nous avons retenu. Et cette idée n'est pas retenue dans le projet. Ce qui est retenu dans le projet, c'est que, utilisant la Constitution, j'irai président chaque année devant le Parlement réuni en congrès, pour m'expliquer, mais nous n'avons pas préservé l'idée du jury citoyen, sans doute pour les raisons que vous avez vous-même rappelées.
Alors, petite question qui n'est pas, je crois, dans votre projet, mais vous pouvez me contredire. Est-ce que votre épouse Brigitte aura un rôle officiel à l'Élysée si vous êtes élue ?
Un rôle officiel, ça dépend comment on l'entend. Elle aura le rôle qu'elle a toujours eu auprès de moi. Pour être très clair, elle m'a toujours accompagné, parce que c'est mon équilibre de vie, parce que c'est comme ça que nous fonctionnons. Elle n'a jamais été rémunérée par la République, de près ou de loin. Voilà.
Donc ensuite, elle ne sera pas rémunérée
par la République. Après, je me méfie du terme rôle officiel, qui n'est pas avoir une fonction officielle rémunérée. Elle aura un rôle. Elle aura un rôle et elle ne sera pas cachée. Parce qu'elle partage ma vie, parce que son avis m'est important et parce que la fonction présidentielle, il ne faut pas se mentir, elle emporte quelque chose qui, en effet, a une dimension personnelle. Donc elle aura un rôle. Ça fait des décennies qu'on tourne en France autour de cette question
du statut de la première dame
ou du premier homme qui accompagne celui ou celle qui est élu.
Mais vous souhaitez mettre en place ce statut ?
Je pense que c'est important de le clarifier.
Macron.
Mais je pense que c'est important de le clarifier. Donc ça, c'est un élément que je pense qu'il est important dans les prochaines semaines de clarifier sur ce point. Sinon, on se retrouve dans des pratiques d'entre-deux, de dissimulation, qui sont impossibles à vivre pour le ou la personne intéressée, et puis qui sont d'une forme d'hypocrisie. Mmh. Donc, rémunéré par la République, non. Avoir un rôle, un vrai statut, une capacité à faire, oui.
Mais c'est important parce que vous avez beaucoup dit, et vous l'aviez fait d'ailleurs avant l'affaire Fillon, que vous interdisez toute embauche de parents, oui, par tous les parlementaires, quels qu'ils soient.
Complètement.
Et donc, il n'y aura pas de rémunération, non, associée à un éventuel statut qui, juridiquement, si je peux dire, borderait la présence de votre épouse à l'Élysée, où vous habiterez.
Écoutez,
si vous êtes élu.
Là,
vous dites,
là,
j'en suis
je
pas
ne
là.
Je ne vais pas... tout de suite aller dans ce degré de détail. Je salue votre esprit extrêmement analytique. Mais vous savez, il y a des choix de vie qu'il faut prendre au bon moment. Là, je suis dans une conquête qui va encore durer 50 jours. Je pense que ce serait d'ailleurs indécent à l'égard de nos auditeurs de commencer à dire où je compte ranger mes chaussettes et mes chemises.
Mais ça n'est pas indécent de préciser
aux
auditeurs.
Non, non, pas du tout, mais je vous dis, sur les sujets qui sont principiels...
Encore une fois, il s'interroge sur
non, mais sur les sujets qui sont principiels, je vous dis, et vous avez raison de rappeler, depuis, on n'a pas attendu l'affaire évoquée, pour que depuis le 6 avril, dans nos statuts, il soit indiqué que il ne puisse pas y avoir de proches ou de membres de la famille d'un collaborateur dans les collaborateurs du mouvement ou autre, parce que c'est à la fois injuste et inefficace. C'est-à-dire qu'on se prive des talents qui ne sont pas familiaux. Il y en a beaucoup.
Il y aura beaucoup de questions avec les auditeurs sur votre programme. Une toute petite sur l'hypothèse du duel que vous envisagez tout à l'heure face à Marine Le Pen. En 2002, Jean-Marie Le Pen, ça a été un référendum finalement pour ou contre Jean-Marie Le Pen avec le résultat qu'on sait. Il est probable qu'elle en fasse, Marine Le Pen, si elle est votre adversaire, un référendum pour ou contre l'Europe que vous êtes un des seuls à défendre. Est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'est une difficulté pour vous, sachant que les Français se défient de l'Europe, comme ils l'ont montré aux Européens?
Réponse courte, s'il vous plaît.
Je ne suis pas si sûr. Je pense que si on ne défend plus l'Europe, si on n'explique pas, et si on n'est pas soi-même exigeant avec l'Europe, c'est un peu le même distinguo qu'on faisait au sujet des journalistes. Moi, je défends l'idée européenne, et je suis pro-européen, mais je suis très critique avec le fonctionnement de l'Europe. Et je pense que la grande erreur, c'est que les pro-européens ont laissé la critique de l'Europe aux anti-européens. Donc, moi, je défendrai un projet européen renouvelé, avec un volontarisme français, avec des vraies réformes, avec une vraie volonté de défendre ce qui nous constitue, notre culture, notre éducation, etc. Mais en même temps, une ambition européenne nouvelle. Donc, je ne crains pas ce débat et cette bataille.
Merci à vous deux.